Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 20 janvier 1946, le général de Gaulle s'en va. Le 13 novembre 1945, l'Assemblée constituante désigne à l'unanimité Charles de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République française. Deux jours plus tard, Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste, est reçu par le nouveau président du Conseil qui s'est déjà entretenu avec le secrétaire général de la SFIO, Daniel Mayer, et le président du mouvement des Républicains populaires, Maurice Schumann. Le général leur expose comment il entend former son gouvernement. Maurice Thorez exige pour les communistes l'un des trois grands ministères, l'intérieur, les affaires étrangères ou la défense nationale. De Gaulle s'oppose à cette injonction. Le 17 novembre, par un discours radio diffusé, il rend les Français juges et arbitres du conflit. Deux jours plus tard, l'Assemblée constituante vote par 358 voix contre 39 un texte qui lui donne un mandat impératif pour que puisse être formé dans les délais les plus brefs un gouvernement composé essentiellement des trois partis, Parti socialiste, Parti communiste, MRP, se partageant équitablement les portefeuilles pour l'application du programme du Conseil national de la Résistance. Charles de Gaulle n'est plus libre. Il est prisonnier du jeu politique. Le 20 novembre, il reçoit à nouveau les représentants des principaux partis. Chacun a le sentiment que la crise est dépassée. Une seule journée suffit pour former le gouvernement. Les communistes, décidés à ne pas rompre avec les socialistes, sont conciliants. Vincent Auriol suggère de séparer le ministère de la Défense nationale en deux départements. L'un chargé des armées est confié à un représentant du MRP, Edmond Michelet. L'autre, chargé de l'armement, est attribué au communiste Charles Tillon. Les communistes obtiennent également les ministères suivants. Industrie et commerce, travail, production industrielle et fonction publique, qui est dévolu à Maurice Thorez, promu par ailleurs ministre d'État. Les socialistes se montrent peu exigeants. Ils ne veulent pas de poste de premier plan pour pouvoir se désolidariser, le cas échéant, de l'action gouvernementale. Nous allons pratiquer la politique du strapontin, précise Vincent Auriol. Léon Blum l'approuve. Le 23 novembre, le gouvernement se présente devant l'Assemblée qui lui accorde sa confiance à l'unanimité. Rapidement, les socialistes passent à l'offensive. Ce changement de stratégie est l'œuvre d'un jeune député du Pas-de-Calais, Guy Mollet. Il condamne l'unité d'action avec les communistes et soupçonne De Gaulle d'être partisan du régime présidentiel. André Philippe, président du groupe parlementaire socialiste, dirige la puissante commission de la Constitution. Sous son impulsion, ses membres limitent les prérogatives du futur président de la République, fonction qui revient de droit, c'est l'avis unanime, au général de Gaulle. Le 18 décembre, la commission parlementaire opte pour son élection par l'Assemblée nationale. Elle lui interdit d'assister au Conseil des ministres. Elle lui retire l'exercice du droit de grâce. Le chef de l'État ne préside pas le Conseil de la Défense nationale. C'est une simple potiche. Le 1er janvier 1946, les débats sont rudes à l'Assemblée constituante. De Gaulle se rend au Palais Bourbon dans l'après-midi. La violence des échanges avec les députés socialistes et communistes est extrême. La décision du chef du gouvernement est prise. Il se retire. Il prend tout d'abord des vacances, les premières depuis 10 ans. « C'est la retraite au désert », affirme André Malraux. Le 4 janvier, il part avec sa famille au Cap d'Antibes. À la villa sous le vent, il relit les mémoires du cardinal de Retz et ceux de Saint-Simon. Il rompt tout contact avec la capitale. Rentré à Paris le 14 janvier, il reçoit dès le lendemain Robert Lacoste, et se lance dans une violente attaque contre les partis. Il met fin à l'audience par cette phrase « Les Français ont peut-être besoin de plusieurs années de vachardise ». Ensuite, il réunit les commissaires de la République,
D'un ton grave, il prévient « Je m'en vais, je me retire, j'ai accompli ma mission, j'ai remis en place les institutions républicaines, elles n'ont plus qu'à fonctionner. » Le 17 janvier, il demande à Louis Jox de convoquer le Conseil des ministres pour le dimanche suivant. La veille, Gaston Paleski fait porter aux membres du gouvernement une convocation dont l'ordre du jour mentionne seulement « Communication du général de Gaulle ». Le 20 janvier, à midi précise, le général, en uniforme, entre dans la prestigieuse salle des armures du ministère de la guerre. Il serre la main des ministres sans leur laisser le temps de s'asseoir. Il prononce une courte allocution. « Ma mission est terminée. J'avais entrepris de libérer la France avec l'armée française sous l'autorité d'un gouvernement français. La France est libérée, le gouvernement est installé dans la capitale, la légalité républicaine est rétablie, la tâche que je m'étais assignée est accomplie, le régime exécutif des partis est reparu, je le réprouve, mais à moins d'établir par la force une dictature dont je ne veux pas et qui sans doute tournerait mal, je n'ai pas les moyens d'empêcher cette expérience. L'action que vous menez à l'intérieur du gouvernement ne correspond pas à l'idée que je me fais de la solidarité gouvernementale nécessaire à l'autorité de l'État. Vous passez votre temps, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, à vous manger la laine sur le dos, vous épousez les querelles de vos partis respectifs, ce n'est pas ainsi que je comprends les choses, il me faut donc me retirer. » De Gaulle quitte la salle, serre les mains de ses collaborateurs et s'en va. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire Un jour trois livres qui a été, comme d'habitude, préparé par Emmanuel. C'est Michel Polnareff qui nous accompagne en chanson avec pour commencer l'un de ses premiers succès. C'était en 1966, Love Me, Please Love Me. Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire un jour, trois livres. Pour commencer, Les femmes d'Auschwitz-Birkenau de Shoshana Boukhamza aux éditions Flammarion. Voici de bouleversants récits dédiés à la mémoire de ces femmes. L'auteur, écrivain et réalisatrice de documentaires sur la Shoah, a enquêté durant 7 ans sur la déportation des femmes à Auschwitz-Birkenau, créée en mars 1942. Longtemps, leur internement dans ce camp s'est confondu avec celui tout aussi tragique des hommes. S'appuyant sur les témoignages des survivantes et à partir des minutes des procès des SS de l'après-guerre, l'auteur reconstitue l'organisation spécifique de Birkenau et donne la parole aux prisonnières venues de toute l'Europe occupée. Pour l'essentiel juive, elles sont aussi catholiques, protestantes, agnostiques ou encore tziganes. Certaines d'entre elles ont été arrêtées pour des faits de résistance, mais la plupart ne savaient pas ce qui les attendait. Toutes celles qui ont échappé à l'extermination seront soumises à un travail forcé implacable. Passé la sidération, des réactions se font jour contre le système carcéral, bureaucratique, criminel qui les écrase. Ainsi, des secrétaires tentent de sauver des femmes du gazage ou des doctoresses dont Adélaïde Hautval refuse face à Joseph Mengele de participer aux expérimentations des médecins SS. Et si un four crématoire a explosé le 7 octobre 1944, ce fut aussi grâce à elle. Dans l'adversité, les femmes d'Auschwitz furent sans défense, mais elles se montrèrent courageuses, audacieuses et surtout héroïques. Les femmes d'Auschwitz-Birkenau de Shoshana Boukhamza, c'est aux éditions Flammarion. Avitus, l'empereur oublié de Christophe Grégoire aux éditions de Boré. Né en Avernie en 395, l'Auvergne sous l'Empire romain, dans une famille de grands dignitaires au service du pouvoir, éduqué entre deux religions et le devoir chevillé au corps, il va être ballotté au gré des circonstances. Après avoir guerroyé et louvoyé entre les sordides intrigues de cour, il devient empereur à la fin de sa vie, du 9 juillet 455 au 17 octobre 456. Nous rentrons grâce à lui de plein pied dans la vie quotidienne de l'Empire romain du 5e siècle. Avitus va combattre Attila et les hordes d'envahisseurs pour défendre âprement l'Empire, nouera des amitiés barbares, notamment avec Théodoric, mais en raison de ses origines gauloises, il n'est pas réellement reconnu comme empereur par les Romains d'Italie. Et après l'échec de sa campagne contre les Vandales et le blocus de Rome, sa situation devient difficile. Le voilà face à un coup d'État et partant se réfugier en Gaule, il périt en route. Avitus, l'empereur oublié de Christophe Grégoire, s'est publié aux éditions de Boré. Et pour terminer cette chronique, nous partons en direction de l'Amazonie avec Marcio Souza, livre publié aux éditions Métaillé. Grand romancier et historien brésilien, Marcio Souza, né à Manaus, nous raconte sa région de la période précolombienne au défi du XXIe siècle, avec rigueur historique, mais aussi avec des anecdotes significatives, mensonges des voyageurs, visions tronquées de la réalité par l'Église, décisions absurdes du pouvoir colonial, initiatives désastreuses des hauts fonctionnaires, décisions positives qui ont œuvré au développement de la région. On avance dans une histoire inconnue jusqu'ici grâce au talent de conteur de l'auteur et on prend conscience que le gouvernement qui doit regarder le combat de la plus grande ferme du monde face à la plus grande forêt du monde devrait d'abord connaître la réalité du terrain, un livre d'histoire qui est un texte de référence en Amérique latine et aux États-Unis qui nous compte aussi des histoires. Amazonie de Marcio Souza s'est publié aux éditions Métaillé. Ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Thomas qui l'a réalisée. Et c'est en chanson que nous allons nous quitter avec toujours Michel Polnareff, l'album Le Bal des Lazes en 1968. Nous écoutons Amkalin.
Yeah.